Alors, bonjour tout le monde. Je dois vous dire que je suis un peu découragé parce que ça fait des années au Québec que vous investissez chaque année beaucoup, beaucoup d'argent. Il y a des années, là, après l'effondrement là, du viaduc de la Concorde, vous vous rappelez, en 2006, c'est épouvantable, sur l'autoroute 19 à Laval, 5 morts, 6 blessés, un viaduc qui nous tombe littéralement sur la tête. C'est épouvantable. Après ça, on a décidé de commencer à mettre de l'argent, mettre beaucoup d'argent. Des années, là, on mettait jusqu'à 2 milliards pour améliorer nos routes. Puis, savez-vous quoi? Ça s'est amélioré, nous dit Bruno Bisson. Bruno Bisson, donc, qui rapporte les chiffres du ministère des Transports. Juste pour vous donner une idée, là. Au Québec, là, si on fait le total de tous les kilomètres sur lesquels on roule, là, on en a pour 31 000 kilomètres de chaussées. Je vous aime ça, là, autour de 6 000 kilomètres d'autoroute, 9 000 kilomètres de route nationale. Ça, c'est la 132, la 138, ces affaires-là, là. Un autre 5 500, ils appellent ça des routes régionales. Et puis un autre 10 000 de chaussées collectrices. Mais au total, là, on a autour de 30 quelques mille. OK? De 2008 à 2014, grosso modo, là, le pourcentage de ce 30 000 km, là, en bon état, était passé de 68 à 80 %. OK? Donc, on se retrouve en 2014, puis on a à peu près 80 % de nos 30 000 km qui sont en bon état. Sauf que depuis 2014, nous dit Bruno Bisson, le journaliste, ça a commencé à diminuer. Ça a recommencé à se dégrader. Et là, moi, je veux comprendre pourquoi. Alors, on va aller rejoindre sans plus tarder Guy Doré, ingénieur, professeur au département de génie civil de l'Université Laval. Bonjour, M. Doré.
Bonjour, M. Drainville.
M. Doré, qu'est-ce qui se passe, là? On met de l'argent, on pompe de l'argent, on investit. Puis comment ça se fait qu'on n'arrive pas à en venir à bout?
Bien, on met de l'argent énormément sur le réseau. Par contre, je pense, comme l'article qui est paru ce matin dans la presse le dit, il y a quand même eu un déclin au niveau de l'investissement sur l'entretien du réseau. On met beaucoup d'argent, mais on en met beaucoup sur des projets comme, par exemple, l'échangeur Turcot, qui est un méga projet sur des projets d'agrandissement, des projets de développement du réseau. Peut-être trop, je ne sais pas. Mais effectivement, on observe là, qu'il y a un déclin au niveau de l'investissement, puis c'est presque une corrélation parfaite entre les investissements qu'on met et l'état du réseau. Donc, si on a ralenti un peu l'investissement, ben on voit aussi qu'on a un plafonnement au niveau de l'état du réseau.
Oui. Mais le problème, c'est est-ce que c'est parce qu'on met de l'argent dans des nouveaux ouvrages et cet argent-là qu'on met dans des nouveaux ouvrages n'est plus disponible pour assurer l'entretien de ce qui existe déjà?
Bien, il y a beaucoup de ça. C'est qu'évidemment, il y a des choix qui sont faits, des choix politiques souvent, des choix de stratégiques aussi. On décide de développer le réseau. Ben quand on développe, on n'entretient pas ce qui est l'existant. Puis bon, des fois, ben pour différentes raisons, différents contextes, on se met à investir davantage dans le développement. Souvent, ben c'est au détriment de l'entretien. À ce moment-là, l'entretien décline un petit peu. Puis dans d'autres situations, bon, on augmente l'investissement en entretien, puis on réduit les investissements en développement. Ça, c'est des choix qui se font encore là au niveau stratégique, au niveau du ministère des Transports, et c'est des choix aussi qui sont politiques.
Ouais, là, j'ai des gens qui m'écrivent, là, qui me disent « ça prendrait plus de béton ». Ça fait des années, moi, là, que je couvre ce dossier-là. J'étais jeune reporter dans les années 90, puis déjà, il y avait ce débat entre les deux grands lobbies, le lobby de l'asphalte puis le lobby du béton. Est-ce que ça s'est réglé, ça? Est-ce que la science s'est prononcée là-dessus, c'est-à-dire que ça prendrait plus de routes en béton ou plus d'autoroutes en béton pour justement assurer plus longtemps la durabilité puis le bon état des surfaces?
Oui, probablement plus d'autoroutes en béton, mais le béton ne réglera pas tous les problèmes. Hein. Vous l'avez encore là, vous l'avez souligné, puis l'article dit bien, il y a le réseau local, lui, qui décline aussi, qui plafonne, où le béton n'a pas sa place. C'est-à-dire, le béton, c'est un excellent matériau.
Mais qui coûte beaucoup plus cher, non?
Qui coûte plus cher, oui, mais qui dure plus longtemps. Mais ça, encore là, c'est pas des religions, là. C'est pas lobby de l'un versus lobby de l'autre. Les meilleures routes sont en béton, les meilleures routes sont en asphalte. C'est deux matériaux qui sont tout à fait performants,
oui,
qui ont chacun leur champ d'application. Et c'est vrai que au niveau autoroutier, on pourrait en mettre davantage, on devrait en mettre davantage. D'ailleurs,
je pense que si on en met davantage, Monsieur Doré, si on met davantage de béton sur les autoroutes, puis que ça dure plus longtemps, puis que c'est plus confortable, on s'entend que on va faire moins de kilomètres de route avec le même investissement. Et par ailleurs, si on en met plus en béton ces autoroutes, c'est de l'argent qu'on n'a pas ailleurs pour les autres parties du réseau, là.
Absolument, mais dans tous les cas, quand on intervient, il faut intervenir de la bonne façon. C'est-à-dire que oui, si ça coûte plus cher, si par exemple on a trop longtemps simplement mis une petite couche de surface,
oui,
pour régler les problèmes, puis souvent ça ne règle pas les problèmes. Parce que quand vous peinturez sur une planche pourrie, ça ne tient pas. Donc, il faut arriver à appliquer la bonne solution. Dans certains cas, ça prend des reconstructions. Bien, évidemment, quand on reconstruit, ça coûte jusqu'à 4-5 fois plus cher qu'une intervention, une intervention de réhabilitation. Mais si c'est ça qu'il faut faire, bien, faisons-le. Faisons-le comme il faut.
Faisons-le comme il faut la première fois. C'est ça que
vous dites.
Bon.
Ouais.
Bon. Puis, d'ailleurs, j'ai un auditeur qui m'écrit là, pour me dire Turco, là, ça semble bien se faire. Je ne sais pas si vous suivez ça un peu. Moi, je suis passé à côté là, il y a quelques jours. Puis je dois dire que ça fait une sacrée différence par rapport à tout ce qui chambranlait là, puis qui nous pendait au-dessus de la tête là, pendant nombre d'années. Ça semble bien se faire, Turco. Je suis pas un expert, mais ça semble bien se faire. Ça pourrait être un exemple de dire bon ben tant qu'à le refaire, faisons-le comme faut.
Absolument. Puis là, c'est pas un luxe de refaire Turco. Là. C'était une nécessité, c'était urgent de refaire Turco. Puis
ouais,
ça, il y a des situations comme ça, on n'a pas le choix. À un moment donné, il faut mettre l'épaule à la roue, puis il faut le faire, le projet. Turco, c'en est un bon exemple. Des fois, le pont Champlain, c'en était un autre qui ne relève pas tout à fait des mêmes gouvernements, mais encore, on a une situation où il faut absolument intervenir, il faut faire ce qu'il y a à faire, et ça devrait être comme ça dans tous les projets. Dans certains cas, ça s'applique aussi à la route locale, où on pourrait se contenter de mettre une petite couche d'asphalte, puis on dit, bon, les gens vont être contents pour quelques années, mais on ne règle rien en faisant ça. Donc, il faut arriver, puis quand on a besoin de reconstruire, on reconstruit.
Je peux-tu vous demander, M. Doré, après la commission Charbonneau, là, puis après toutes ces enquêtes qu'on a eues, là, qui démontraient, dans le fond, que la corruption contribuait à la dégradation accélérée de nos infrastructures. D'abord, on payait trop cher, mais deuxièmement, à cause de la collusion, c'était pas nécessairement toujours la meilleure qualité qui était posée sur nos routes, là, puis nos autoroutes. Avez-vous l'impression, ou avez-vous plus que l'impression, la conviction, que tout ce travail-là qu'on a fait pour essayer de sortir les pourris de l'industrie de la construction, pour essayer de nettoyer puis d'assainir ça, pensez-vous que, grâce à cet exercice-là, là, on va en avoir plus pour notre argent à l'avenir?
Je pense sincèrement qu'on a amélioré les choses. On n'a pas réglé tous les problèmes. Mais je pense que les conditions d'attribution de contrat, les conditions de surveillance de contrat se sont quand même assez nettement améliorées.
Mais la qualité, M. Doré, la qualité des matériaux, la qualité de la construction, est-ce que c'est meilleur maintenant, vous pensez, que c'était le cas il y a 10, 15, 20 ans?
Bien, je suis peut-être un peu naïf, mais j'ai l'impression effectivement qu'il y a un meilleur résultat parce que tout le monde s'est discipliné. Puis je pense qu'on arrive à faire un meilleur travail. On ne s'est pas débarrassé de tous les problèmes, loin de là. Il va sûrement en avoir encore, puis probablement que dans quelques années, on aura une autre commission éventuellement qui se penchera sur d'autres problèmes qu'on vivra à ce moment-là. Je pense qu'on ne pourra pas éviter tous les problèmes, mais je crois qu'il y a eu amélioration. Évidemment, on est encore pris avec un système qui est le système du plus bas soumissionnaire, qui prête beaucoup à la qualité minimale.
Bon, alors ça, je suis content que vous l'ameniez. Est-ce que le gouvernement de la CAQ va reconsidérer ce système-là, faire en sorte, par exemple, que, tu sais, dans certains pays européens, vous êtes plus connaisseur que moi là-dedans, dans certains pays européens, ils ouvrent l'appel d'offres et là, ils éliminent le plus haut puis le plus bas. Et puis, ils vont prendre la moyenne de ce qui reste. Puis, celui qui s'en rapproche le plus, c'est lui qui a le contrat. De cette façon-là, évidemment, tu sors les magouilleurs parce qu'ils peuvent pas magouiller, ils peuvent pas savoir. Et puis, tu te rapproches probablement du coût réel de l'infrastructure. Puis, ça t'évite, j'espère, je pense, de te retrouver dans une situation où les entrepreneurs, après ça, arrivent après un an, deux ans, trois ans, puis ils commencent à demander des extras.
C'est ça. Ben, c'est effectivement, c'est des systèmes qui existent. Ils sont pas très répandus. Je pense que la plupart des gens utilisent un système du plus bas soumissionnaire. Mais il y a des administrations qui utilisent ce type d'approche-là, qui, à mon avis, améliorerait quand même beaucoup les choses, parce qu'effectivement, ça éviterait un problème où les gens se spécialisent à identifier les trous dans les appels d'offres, puis après ça, ben sautent là-dedans pour demander des extras, là.
Est-ce qu'on a eu des signaux du nouveau gouvernement de la CAQ sur cette question-là?
Ça, malheureusement, je n'ai aucune indication de s'il y a des intentions dans ce sens-là.
Je dois vous dire que c'est une des questions qu'on voulait poser à François Bonnardel, le ministre des Transports, qui malheureusement n'était pas disponible pour nous donner sa réaction donc à ces données-là. On espère qu'il y aura une réaction plus tôt que tard. Mais si j'ai bon souvenir, la CAQ avait, dans l'opposition, manifesté une ouverture à améliorer le processus d'appel d'offres. Vous, dans votre esprit d'expert là, puis de prof en génie civil, faut changer le mode d'attribution des contrats. Faut changer le processus d'appel d'offres. Ça, c'est pour vous, c'est clair, ça.
Je crois que ça devrait être considéré, effectivement, d'essayer d'avoir une approche qui permet davantage d'assurer la qualité. Évidemment, le plus bas coût possible est quand même très important, mais on peut l'intégrer dans le processus. Comme vous dites, une approche qui élimine le plus bas soumissionnaire fait qu'on va définitivement payer un petit peu plus cher, mais ça encore là, on pourrait avoir des surprises, ça pourrait être moins cher parce qu'il y a moins d'extras. Donc, je pense que c'est quelque chose qui mériterait d'être considéré.
Bon.
Ça fait partie un peu des problèmes qu'il faut chercher à améliorer.
En terminant, est-ce que les techniques de construction dans les pays froids comme le nôtre se sont améliorées avec le temps? Est-ce que la science, parce que vous en êtes, fait en sorte qu'aujourd'hui, on est capable de construire, il y a des méthodes de construction, des techniques, des matériaux qui permettent à une chaussée, à une autoroute, par exemple, de durer plus longtemps dans un climat comme le nôtre?
Il y a des améliorations, mais il n'y a rien de spectaculaire. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est que les matériaux s'améliorent, les bétons s'améliorent d'année en année. Il y a toujours des additifs, des nouveaux produits qui permettent d'avoir des bétons de meilleure qualité. Même chose avec les asphaltes. On améliore constamment, un petit peu à la fois, la qualité des matériaux. Et on arrive, aujourd'hui, si on regarde sur une période de 30 ans, les matériaux qu'on a aujourd'hui sont nettement meilleurs que ceux qui ont une trentaine d'années. De la même façon, au niveau de la construction, il y a beaucoup d'améliorations qui se fait, surtout au niveau de l'optimisation l'automatisation
oui.
des techniques de construction, avec beaucoup de systèmes maintenant qui sont guidés par laser, guidés par GPS, avec un niveau de qualité qui est nettement supérieur à ce qu'on avait lorsque c'était ajusté à la main. Donc, effectivement, beaucoup d'améliorations qui s'est faites dans les dernières décennies, qui fait que, de façon générale, on arrive avec des bien meilleurs résultats aujourd'hui qu'on avait il y a 20 ou 30 ans.
Donc, ne perdons pas espoir, M. Doré.
Ne perdons pas
espoir.
Parce que,
m'a dire une affaire, là. On se trouve pas bon. Je regarde là, les réactions des gens qui m'écrivent pendant qu'on se parle, là, puis on est... qu'est-ce que tu veux? Ça fait des années qu'on vit avec des chantiers, puis là, on se fait dire un matin, mais regarde, malgré tous ces chantiers-là, oui, il y a une bonne phase d'amélioration. Je le rappelle, là, au net, le bon état de l'ensemble des 30 000 kilomètres qu'on a, c'est passé de 68 à 80 %. J'arrondis, là, mais c'est ça. Mm-hmm. Mais là, on est retombé en dessous du 80.
Oui.
Puis on décline tranquillement.
Ben, c'est ça qu'il faut s'assurer que c'est pas une tendance, mais simplement un genre de petit plafonnement temporaire. Espérons effectivement qu'on va continuer à progresser à ce niveau-là. Puis ça, il y a pas d'autre façon que d'investir et de faire mieux.
Voilà.
Ça, c'est clair qu'il faut absolument que ces deux éléments-là soient.
Mais pas juste pomper de l'argent, M. Doré. Pomper de l'argent dans quelque chose de mieux. C'est ça qui est important. Alors, je rappelle que vous êtes ingénieur, professeur au département de génie civil de l'Université Laval. C'est un plaisir. Merci.
OK. Au revoir.
Dans un instant, les difficultés de Caroline Néron. On se réjouit pas de ça, hein, une entrepreneure de chez nous, là. Mais elle a choisi une stratégie. de relations publiques, si on peut dire, de communication, a dit, garde, je vais déballer mes problèmes, je vais reconnaître mes erreurs. Est-ce que c'est la bonne façon de faire les choses? Est-ce que ça aide la marque? Est-ce que ça peut aider à relancer l'entreprise? Et par ailleurs, il y a son ex-collègue François Lambert, qui a été dragon comme elle, qui lui donne une... C'est pas une claque dans le dos, là, hein? Après la pause.